Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 novembre et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission autour de l'actualité locale, l'actualité ici en Mayenne. On va parler aujourd'hui d'un tout nouveau festival autour du papier sous toutes ses formes. Ça s'appelle Fest and Family et il aura lieu à Laval ce week-end. Virginie, l'animatrice de la maison de quartier des Fourches, nous en parlera tout à l'heure. Et puis une grande question, pourquoi est-il si difficile d'être parent? C'est en tout cas le thème de la grande conférence organisée par le Centre Social du Pays de Château-Gontier demain soir avec le pédopsychiatre, le docteur donc Patrick Bensoussan, que nous avons interrogé justement pour essayer de trouver des pistes de réponse à cette question. Pourquoi est-il si difficile d'être parent? Et puis attention, aujourd'hui, deux chroniques pour le prix d'une. Et oui, nous aurons comme tous les 15 jours plutôt, j'allais dire chaque mercredi, et non pas chaque mercredi, un mercredi sur deux, nous aurons donc Swazik avec un autre écho de l'écho qui sera là pour nous faire sa chronique économique à sa manière bien sûr, et puis une chronique sport aujourd'hui, et oui ce sera celle de Teddy qui nous parlera boxe, ça ce sera à découvrir en fin d'émission. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité avec ce matin 9 blessés à cause des routes glissantes. 46 pompiers ont été engagés en moins de 2 heures en Mayenne. Plusieurs accidents de voitures sont à signaler à Mont-de-Vert, à Bourgon, à Saint-Ouen-des-Toits et à Saint-Berthevin ainsi qu'à Charchigné. Et puis des chutes de cyclistes aussi ont eu lieu à Luisery et à Laval. Et la Nationale 162 entre Mayenne et Laval a même été bloquée ce matin vers 10 heures après un accident entre deux véhicules et un poids lourd. La circulation revient petit à petit. La Mayenne est aussi le département le moins touché de France par l'épidémie, avec un taux d'incidence de 85,8 cas pour 100 000 habitants. Mais ce chiffre augmente malgré tout, comme partout ailleurs. Un conseil de défense sanitaire se tient depuis ce matin à l'Élysée. De nouvelles mesures pourraient être prises pour endiguer cette cinquième vague, comme le renforcement du port du masque ou l'élargissement du rappel vaccinal. Des moyens renforcés en Mayenne pour les habitants en attente justement de ce vaccin. Avec l'annonce de la troisième dose, les sollicitations sont devenues plus importantes et l'équipe d'opérateurs du centre d'appel passera à 4 personnes. Il s'agit d'un centre d'appel et d'un numéro unique, le 02 43 53 0000, accessible de 8h à midi. Un vrai statut de fonctionnaire pour les AESH, c'est ce qu'a demandé hier à l'Assemblée nationale le député mayennais Yannick Favennec. Une vraie reconnaissance pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Leur salaire est en moyenne de 800 euros par mois, alors que, je cite, ce sont des maillons essentiels du vivre ensemble au sein d'un établissement scolaire. Plus de 1000 petits bonnets solidaires tricotés à Laval. Grâce à l'opération lancée par la maison de quartier d'Avenières en avril dernier, le principe tricoter un petit bonnet qui sera mis sur une bouteille de smoothie innocent. Et pour chaque bouteille achetée, la marque reversera 20 centimes à l'association Les Petits Frères des Pauvres. Au total, près de 1350 bonnets ont été récoltés, l'équivalent d'un chèque de 270 euros à l'association. Sur la Transat Jacques Vabre, le bateau mayennais sera le prochain à arriver dans la catégorie ultime. Le bateau actuel d'Yves Le Blévêque et Anthony Le Marchand est à 608 000 nautiques des côtes. Franck Camas et Charles Caudrelier ont remporté la course hier après-midi sur leur Maxi et Mondo Rothschild en 16 jours, 1h et 49 minutes. Ils ont été suivis des bateaux SVR Lazartigue puis le Banque Populaire 11. On va parler donc de ce tout nouveau festival autour du papier sous toutes ses formes. Il s'appelle le Fest and Family. Il est organisé par la maison de quartier des Fourches à Laval ce week-end. Et c'est la première édition avec un programme déjà bien rempli qui est né sous l'impulsion de Virginie, animatrice à la maison de quartier des Fourches.
L'origine de ce festival, c'est vraiment l'envie de proposer un week-end entier d'animation à destination du public, des enfants, des parents, sur 2 jours. Le festival Fest and Family fait partie d'un projet aussi plus global qui est mis en place sur la maison de quartier des Fourches, à savoir culture en famille. Et toute cette action est financée dans le cadre du contrat de ville par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, mais aussi par la ville de Laval. C'est vrai que je suis un peu une monomaniaque du livre et que c'est un chouette support et qui permet effectivement d'ouvrir les horizons, d'élargir. Et c'est le prétexte aussi à pas mal d'animations. Donc c'est vrai que j'ai construit le Fest and Family au travers de ce support-là, avec différentes actions qui auront lieu, comme la fabrication de papier en partenariat avec le CIN. Il y a Suzon Illustration aussi qui sera présente et qui proposera un atelier manuel avec différentes textures de papier. Il y aura aussi un spectacle qui sera autour du papier par la compagnie avec un nuage de lait. Donc l'idée, c'était vraiment ça, c'était le papier, le livre aussi et tout ce qui peut en décliner. Il y aura aussi des conteurs, des histoires qui seront racontées et aussi signées par une interprète langue des signes. Nous serons aussi partenaires avec Questandi parce que le Fest & Family, c'est pas que du papier ni du livre, c'est aussi un peu de rock. Et le dimanche après-midi, il y aura un concert rock pour les enfants, leurs parents, pour tout le monde. Et Questandi sera présent avec des sub-packs pour pouvoir permettre aussi à chacun de pouvoir participer à ce festival. Ce sont des sacs qui sont des sacs à dos et qui permettent, une fois branchés sur une régie, de transmettre les vibrations du concert en question. Il y aura en accès libre aussi trois cabanes à lire, dont une qui sera avec des livres en braille. Il y aura aussi une cabane à lire avec des livres qu'on dit simplifiés, donc ça sera avec des pictogrammes. Et il y aura aussi une cabane à lire avec des livres à toucher. Donc vraiment, l'idée, c'est de le rendre accessible à un maximum de personnes et pour tout le monde.
Et pour tout le monde, pour que tout le monde puisse justement participer à ce Fest & Family, vous pouvez vous inscrire directement auprès de la maison de quartier des Fourches au 02 53 74 15 00 ou par mail à mq.fourches@laval.fr. On va parler de cette grande conférence autour de la parentalité proposée à Château-Gontier demain soir, mais avant, on fait une pause en musique avec Voyou et les Trois Loubards.
Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'était lancée. Oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loubar? J'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. Ils m'ont pris mes baskets, ma veste, mes cigarettes. Pendant que je restais sur place, sans un mot, sans un geste, et l'air désabusé. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant me venaient quelques réponses bien senties que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait. Pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raquer un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Si je sors bien les violons, ils vont me rendre mon blouson. Peut-être même mon téléphone, je récupère mes affaires et je leur file ma monnaie. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons qui en veulent à mon blouson. Oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loupard? J'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. Ils en veulent à mes baskets, ma veste et mes cigarettes. Je vais pas rester sur place sans un mot, sans un geste et l'air désabusé. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raquer un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Sorti les violons, ils m'ont rendu mon blouson. Et même mon téléphone, j'avais toutes mes affaires, j'aurais filé ma monnaie.
Voyou rendez-vous avec les trois loupards dans la JT du local sur l'autre radio. Avec cette grande question maintenant, pourquoi est-il si difficile d'être parent ? C'est le thème de la grande conférence autour de la parentalité organisée demain soir par le Centre social du pays de Château-Gontier. Elle avait été prévue puis annulée l'an dernier, mais va enfin pouvoir se tenir donc ce jeudi à 20h30 à l'espace Saint-Fiacre avec le pédopsychiatre, le docteur Patrick Bensoussan, qui apportera son expérience et échangera avec les parents. Nous l'avons joint un petit peu plus tôt par téléphone pour qu'il nous explique déjà tout simplement le titre de cette conférence.
Je m'appelle Patrick Bensoussan, je suis pédopsychiatre et je travaille à Marseille. Moi, j'ai d'abord été formé en périnatalité, c'est-à-dire que j'ai travaillé et en particulier à l'hôpital, en service de maternité, de néonatalité, de réanimation néonatale, de CAMS. CAMS, ce sont des centres d'action médico-sociale précoce, donc c'est-à-dire le plus souvent auprès d'enfants tout petits, dans leur toute première année de vie, auprès de leurs parents, auprès des équipes qui s'occupaient d'eux et qui les prenaient en charge pour des difficultés, la plupart du temps somatiques, des maladies, des handicaps, des troubles du développement, etc. Et aux adultes, mais qui étaient plus atteints dans leur chair, puisque je travaille dans un centre de lutte contre le cancer qui prend en charge des malades atteints de maladies cancéreuses. Donc à Marseille, je continue une activité auprès des tout-petits, en ce sens que j'ai monté depuis, ça va faire 10 ans l'an prochain, une crèche un peu expérimentale qui travaille beaucoup autour de la question de la mixité sociale, des arts et de la culture. C'est une crèche qui est inscrite dans un quartier qui est très défavorisé, qui s'appelle la Belle de Mai à Marseille, et qui travaille beaucoup autour de ce que la culture peut nous apporter et nous apprendre dans la relation avec les autres.
Et justement, vous venez en tout cas à Château-Gontier pour jeudi, pour cette conférence autour de cette question, pourquoi est-il si difficile d'être parent ? L'idée, c'est justement de pouvoir rassurer aussi qu'il y ait des échanges de témoignages. Comment est-ce que vous envisagez les choses ?
Oui, c'est une question qui est un peu étrange. Hein. C'est une question qui est très moderne parce qu'on se la pose aujourd'hui, mais assurément, on se la posait pas de la même façon il y a quelques années ou il y a quelques générations. Elle n'était pas en tout cas exprimée sur le même mode. On entend beaucoup aujourd'hui, hein, l'ampleur inouïe de ce questionnement toutes ces dernières années. Hein. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'être parent ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Hein ? Et combien ce métier semble en tout cas être un métier à la fois périlleux, exténuant, inquiétant pour les parents d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir échanger autour de cette question, hein, sur un mode, je l'espère, le plus interactif et dialoguant possible, hein, parce que ce qui est important, c'est aussi ce que les gens pensent, comment ils se font leurs idées, leurs représentations, et comment on peut échanger sur ces questions-là ensemble.
C'est vrai qu'on en parle, vous le disiez, beaucoup plus depuis quelques années, de parentalité positive, d'ateliers autour de la parentalité qui n'existait peut-être pas il y a 10 ans ou même un peu plus. Ouais. Pour vous, c'est plutôt un bon signe ou ça peut avoir aussi ces effets pervers de culpabiliser toujours plus les parents à ne pas être un parent parfait ?
Ben vous savez, il y a au moins 2 types de discours autour de la question de la parentalité. Il y a cette assurance que depuis la nuit des temps, les parents ont été parents de leurs enfants et la vie a continué et les générations se sont succédées pour parler presque de l'aspect naturel de la parentalité, c'est-à-dire on est naturellement parent et bon, même si c'est compliqué, on arrive à pouvoir s'en débrouiller parce que c'est presque inscrit dans nos gènes, quoi. Et puis il y a une autre vision de la parentalité qui dit que la parentalité est en lien avec l'époque dans laquelle nous vivons, ici et maintenant, et qu'elle est donc culturellement déterminée, socialement déterminée, et qu'on n'est pas du tout parents de la même façon. Aujourd'hui, au 21e siècle, à Paris, dans le Marais, ou à Manhattan, à New York, que au 16e siècle, dans les plaines de l'Afrique, ou parmi les cahutes d'Asie mineure, quoi. Donc, il y a une façon complètement différente de penser la parentalité qui nous oblige, en tout cas, à y regarder d'un peu plus près.
Et là, l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre à des questions de parents, de comment est-ce qu'on peut être, justement, c'est difficile et comment est-ce qu'on peut s'améliorer, ou à l'inverse, peut-être aussi de prendre du recul, de se rassurer un petit peu.
Oui, ça, dans le même temps, le postulat, c'est bien de se dire que de toute façon, on va échouer, on va être mauvais, on va s'en prendre plein la tête, on va être épuisé. Donc, voilà, c'est comme ça, on fait avec, quoi. Que les enfants ne sont pas l'exclusif, l'autoconsolation de notre vie ou bonheur de nos existences, qu'on doit arriver à trouver d'autres choses en nous et autour de nous, qu'il faut arrêter de se focaliser sur notre inquiétude ou notre sollicitation anxieuse à l'égard des enfants. Parce que la vie est compliquée aujourd'hui, parce que l'avenir nous fait peur, parce que la maladie, la guerre, les attentats, et toutes ces choses-là créent en tout cas une sollicitude anxieuse de la part des parents à l'égard de leurs enfants. Et il y a vraiment un moment où il faut recommander aux parents de lâcher les enfants. Et c'est comme ça qu'eux aussi vont pouvoir avoir un espace de vie et de bonheur, quoi.
Donc se libérer un peu en tant que parent pour aussi libérer ses enfants, c'est ça ?
Oui, totalement. L'idée, c'est bien entendu qu'on part et qu'on sait de plus en plus de choses autour de devenir parent, du développement des enfants, de l'attention qu'on doit porter à tel ou tel élément de leur vie. Et donc, du coup, si on est, on va dire, normalement suffisamment bienveillant, eh ben, le reste viendra dans la confiance qu'on va accorder à nos enfants pour pouvoir arriver à se développer, à être créatifs et à trouver leur place dans le monde de demain, quoi. Mais pas toujours être derrière eux, dans une hypervigilance, une hyperattention, une hyperprotection. Il y a là un espace de l'enfant qu'il faut laisser se déployer. Et il faut qu'en tant que parents, on arrête d'être tout le temps sur leur dos.
Et ça, c'est ce que vous rencontrez justement comme interrogation et comme comportement des parents qui viennent à la crèche, par exemple ?
Oui, il y a aujourd'hui une inquiétude des parents à l'égard de leur enfant et de leur avenir qui est marquée. Il y a le besoin de toujours faire mieux, de toujours faire plus. Hein. Ça, c'est aussi notre société de consommation, hein, notre société libérale avancée, riche, qui fait qu'on a l'impression qu'il faut toujours en faire plus pour nos enfants, parce que plus on en fait, mieux ça sera pour demain, et plus on les aura armés pour leur avenir. Or, c'est complètement faux. Hein. Le seul plus qui est important, c'est un plus de temps. Et on voit que là, c'est la grande question, parce qu'on a de moins en moins de temps qu'on accorde à nos enfants, parce qu'on est tous pris par des tas de choses dans nos vies. Et c'est ça le plus important en soi. Hein. C'est pas les objets, c'est pas les propositions qu'on peut faire à un enfant, c'est le temps qu'on peut passer avec lui.
C'est ce que vous conseillez justement aux parents qui vous interrogent sur comment essayer de mieux faire, de s'accorder des petits temps avec ses enfants ?
Non, moi je conseille rien du tout. Hein. Je crois que les conseilleurs sont des mauvais payeurs, comme on dit, hein, et qu'il y a tellement flopé de gens qui conseillent tellement de choses aux parents que ça suffit comme ça et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et je pense vraiment que dans le champ de la parentalité, les conseils sont fortement inefficaces. Il faut juste essayer de parler avec les parents et d'essayer d'élaborer avec eux le pourquoi et le comment ils font les choses. C'est ça qui est un peu le nerf de cette situation. Parce que vous dites aux parents, voilà, il faut faire comme ça, ben ils vont le faire, mais s'ils sont pas complètement acquis à cette idée, si elle est pas, s'ils l'ont pas digéré, s'ils l'ont pas fait leur, ça sert à rien. On voit aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de la parentalité positive. On voit combien la parentalité positive s'est développée dans les 10 dernières années et aujourd'hui elle est en train d'être complètement re-questionnée, voire refoulée par des tas de parents qui disent « mais on a essayé tout ce qui était écrit dans les livres, tout ce qu'on nous a vendu dans les ateliers, tout ce qu'on a repéré sur le net et en fait ça marche pas, mais alors pourquoi ?» Et alors la question qui suit, c'est parce qu'on n'est pas doué, c'est parce qu'on sait pas faire, c'est de notre faute et on tombe sur la culpabilité parentale, etc. Donc dès que vous avez une recette et une proposition en disant à un parent « c'est comme ça que vous devez faire », vous ne faites que augmenter sa culpabilité. Il faut lui expliquer les choses et après il va trouver lui-même les solutions et les recettes pour pouvoir pratiquer.
Donc l'idée c'est d'être dans l'échange en tout cas. Ça
bien
marche
sûr.
J'imagine qu'on soit parent d'un petit bébé ou même d'un ado.
Bien sûr, bien entendu, avec des façons complètement différentes de traiter les choses. On sait qu'à l'adolescence, les choses sont re-questionnées au niveau de l'identité, au niveau en particulier de l'identité sexuée. Hein. C'est la découverte de la sexualité, la découverte d'un nouveau corps qui nous a complètement transformés, la découverte d'émotions que jusque-là, on n'arrivait même pas à penser. Et donc, les adolescents sont confrontés à une espèce de résurgence, d'éruption émotionnelle particulièrement importante qu'il faut d'abord comprendre, ensuite accepter, hein, pas créer des cadres qui soient trop rigides, des empêchements, hein, s'ouvrir à toute la richesse de leur monde qui est en train de se constituer. Et leur dire de façon assurée et répétée, parce que c'est ça le plus important, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, même si c'est difficile là maintenant, je sais que nous allons traverser des moments compliqués, peut-être des épreuves, mais tu sais que je serai là et que j'essaierai d'être là le plus longtemps possible auprès de toi pour t'aider dans ce cheminement. C'est ça qui est important, c'est que les enfants entendent la question du lien, je suis là et je suis là avec toi. C'est primordial, bien sûr. Oui. Et c'est pas un mensonge, je serai toujours là pour toi, parce que ça, on n'en sait rien avec tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Regardez l'épisode du Covid qui a décimé plein de personnes. Mais je serai là, je ferai en sorte d'être là le plus possible et le mieux possible, si la vie me le permet, si la situation me le permet, si le monde me le permet, etc. Donc à la fois d'être dans la réalité. Et la vie dépend aussi du monde ici et maintenant, hein. Et à la fois dans une assurance d'une présence et d'un accompagnement qui se veut vraiment formel et massif à l'égard de l'enfant, quoi. Tu peux compter sur moi, c'est ça qui est important.
Et pour entendre plus en détail le docteur Patrick Bensoussan, le pédopsychiatre, la conférence est donc programmée demain à 20h30 à l'espace Saint-Fiacre à Château-Gontier, gratuite sur inscription auprès du centre social au 02 43 09 55 80 par mail à centre.social@chateaugontier.fr ou à l'espace culturel Leclerc. On va entendre nos deux chroniqueurs juste après avoir écouté Céleste avec Stop This Flame.
Goes up, my heart goes down. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this thing. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything. But it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this thing. Keep away from me if you think you
Abyss Flame, Céleste dans l'agité du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio, bien sûr. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, un mercredi sur deux, on retrouve Soizic pour un autre écho de l'écho. Bonjour Soizic.
Bonjour Marie.
Et aujourd'hui, vous nous proposez une solution pour le moins inattendue à la désindustrialisation, le cannabis.
Et oui Marie, je vous rassure, je n'ai pas fumé de substances illicites avant d'intégrer l'autre radio. Mais en effet, le cannabis pourrait bien non seulement remédier à la désindustrialisation, mais également devenir un modèle de relocalisation, donc de souverainisme économique. Alors je m'explique. Tout part d'un interview que j'écoutais l'autre jour sur France Culture. Jean-Baptiste Moreau, député LREM de la Creuse, y expliquait le projet de redynamisation du département par la culture du chanvre pour compenser les emplois perdus dans les entreprises d'équipementiers automobiles locales.
Mais Soizic, c'est autorisé ça ?
Mais absolument ! Alors le problème c'est qu'on a une législation tout à fait ubuesque. Un peu de théorie. En économie, on apprend que les marchés ne sont pas des créations instantanées livrées à la seule loi de l'offre et de la demande, mais au contraire qu'ils sont des constructions sociales encadrées par des règles formelles, comme la législation, pour être efficient. Vous vous doutez bien que le cannabis n'échappe pas à cette règle. Et pourtant, quand on se penche sur l'encadrement de ce marché, je peux vous garantir, on croit rêver. Précisons les choses. Le chanvre, ou cannabis, c'est la même plante, hein, dont on peut extraire d'une part la THC, considérée comme drogue par l'OMS et interdite de production comme de transformation en France, et d'autre part le CBD, déclassé par l'OMS en tant que drogue, car ne contenant pas de psychotropes. L'usage du CBD peut être thérapeutique, comme soulager la sclérose en plaques ou l'arthrose, ou être un usage de bien-être et de relaxation. Il n'est pas considéré comme un médicament et est autorisé, c'est important, de production comme de consommation dans toute l'Union européenne. Dans toute l'Union européenne ? Eh non, un seul pays résiste, la Gaule bien sûr, la France bien sûr. Écoutez plutôt cette histoire. Il y a 5 ans, alors même que l'Union européenne légalisait la production et la consommation de CBD, la mission interministérielle française de lutte contre les drogues et les conduites addictives a souhaité, elle, mettre fin à toute exploitation du CBD. Et Canavap, qui est l'une des premières entreprises à en avoir fait les frais. Créée en 2014, la petite société commercialise des liquides pour cigarettes électroniques contenant du CBD, donc autorisé par l'Union européenne. Mais quelques mois seulement après le lancement, ces deux créateurs sont accusés de trafic de stupéfiants. En 2018, ils écopent de 15 et 18 mois de prison avec sursis et doivent s'acquitter d'une amende de 10 000 euros. L'entreprise saisit alors la cour d'appel d'Aix-Marseille qui demande à la Cour de justice de l'Union européenne de se positionner sur le sujet. En 2020, la cour d'appel donne raison à l'entreprise en invoquant la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne qui, je cite, « s'oppose à une réglementation nationale comme celle de la France ». La France est alors obligée de réviser sa législation, ce qu'elle fait avec son projet d'arrêté déposé le 20 juillet 2021, c'est tout récent, auprès de la Commission européenne.
Donc tout va bien désormais ?
Eh bien, figurez-vous Marie que dans ce nouveau texte, la France autorise la production et la transformation de toute la plante de cannabis, mais elle interdit l'exploitation de la seule fleur dont est issu le CBD. Autrement dit, on peut importer du CBD au nom de la libre circulation des marchandises en Europe, mais on n'a pas le droit de le produire en France. On peut cultiver le chanvre, l'exporter à l'étranger pour le transformer et le réimporter pour le consommer. Pourquoi allons-nous faire simple ? En dehors de l'aspect ubuesque de la législation, cela crée un vrai manque à gagner, un coup d'opportunité, disent les économistes. Le chanvre devant être transformé ailleurs qu'en France, cela décourage la construction d'une filière complète qui, d'après le député, aurait pu créer jusqu'à 1000 emplois et faire revivre une agriculture moribonde dans la Creuse. Par exemple, alors que le rendement à l'hectare du maïs est de 900 euros, il pourrait monter jusqu'à 3 000 euros pour le chanvre, nous informe le site Madinès. Mais le plus fort dans l'histoire, c'est que la France est le premier producteur européen de chanvre, mais à destination du cordage ou du BTP par exemple. Alors, à l'heure où on glose à l'envi sur la souveraineté économique et les relocalisations, la position de la France interroge bien sûr. D'autant que l'on sait très bien que le marché du CBD est en pleine expansion et qu'il ne semble pas prêt de se tarir. Un célèbre soda américain compte même inclure la substance dans ses produits. En France, en un an, le nombre de boutiques de CBD hors e-commerce a été multiplié par 3 pour atteindre 400 en février 2021, selon le syndicat national du chanvre. Et ce dernier estime d'ailleurs que le marché potentiel du CBD serait d'1 milliard d'euros.
Mais alors comment on peut expliquer une telle rigidité de la part des pouvoirs publics ?
Alors les raisons évoquées sont des motifs d'ordre et de santé publique pour, je cite, « protéger les consommateurs et lutter contre les trafics de stupéfiants ». Autrement dit, et c'est quand même là toute la magie de la situation, pour lutter contre des trafics illégaux qui en fait sont légaux, les exploitants de CBD français se trouvent aujourd'hui condamnés par une législation illégale. Peut-être que nos énarques devraient arrêter de fumer du cannabis et se mettre très vite au CBD.
Merci beaucoup Soizic pour cette nouvelle chronique au sujet, toujours plus étonnant en tout cas celui-là, je ne l'avais pas vu venir pour être honnête. Chronique que vous pouvez bien sûr réécouter comme toutes les autres sur notre site l'autreradio.fr. Et puis on va retrouver une nouvelle petite chronique proposée par notre stagiaire de Teddy qui nous parle de sport avec un bel événement de boxe, un bel événement qui se prépare ce week-end à Laval, Teddy.
Et oui, c'est ce samedi que Jordi Weiss, le boxeur lavallois, réenfile les gants. Après 27 victoires en autant de combats et un repos de plus d'1 an, El Gitano remet ça pour la première fois à l'espace Mayenne de Laval, face à un boxeur qu'il connaît bien, l'Espagnol, Heitor Nieto.
Et donc qui est ce boxeur espagnol que Jordi Weiss va affronter ?
Eh bien, Heitor Nieto, c'est El Diamante, un Espagnol de 37 ans qui a à son actif 32 combats pour 25 victoires, 6 défaites et 1 nul. C'est un coriace qui affronte Jordi ce samedi pour une revanche, après une première victoire de peu du Mayennais au bout de 12 rounds à Saint-Nazaire en février 2018. C'est maintenant un combat de 10 rounds qui attend les deux boxeurs pour espérer remporter la ceinture IBO des poids welter, ceinture internationale qui récompense les boxeurs aspirant à un niveau supérieur.
Et à part cette revanche, y aura-t-il d'autres combats samedi à l'espace Mayenne ?
Eh bien oui, car à l'espace Mayenne qui accueille pour la première fois un tel gala de boxe, le stade Lavallois Boxe propose aussi le même soir 4 combats professionnels, dont un féminin et 3 combats amateurs.
Et un programme bien rempli, donc on l'a compris, mais où peut-on réserver ces places ?
Eh bien les places sont disponibles dès maintenant sur le site de l'espace Mayenne et dans les points de vente qui y sont précisés, moyennant entre 25 et 40 euros. Ouverture des portes samedi à 18h30.
Eh bien merci Teddy, je pense que là c'est bon, on a toutes les infos et plus d'excuses pour ne pas aller voir Jordi Weiss donc lors de son combat samedi soir, en tout cas amateur de boxe ou non, je pense que c'est un joli spectacle qui nous attend. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi pour cette émission du mercredi 24 novembre. Évidemment, c'est la fin de la JT du local pour aujourd'hui. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura Novorama, ce sera suivi à 21h de d'Eclectic Jazz. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, soyez au rendez-vous demain à 12h15 pour une émission spéciale en direct de l'Hôtel de Ville de Laval, pour une émission spéciale contre les violences faites aux femmes et tous les dispositifs qui sont mis en place. On en parlera, ça ce sera demain à partir de 12h15 sur cette antenne. Bonne journée à tous.